Nous vous présentons dans la série d'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Junière. Les conspirateurs, mise en scène, production de Jean-Pierre Junière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Il va falloir travailler. Émile se dit, déjà, et oui, tu vas commencer lundi matin. Tu viendras avec moi, je te ferai visiter l'usine et te ferai au début travailler au laboratoire. Proprement dit. Je ne suis pas un de ces nouveaux patrons qui ne connaissent que le commercial et les bureaux. J'estime qu'un patron doit tout savoir de son entreprise. C'est pour cela que tu vas passer par tous les échelons. Rapidement, bien sûr, mais tu seras noté. Et je ne te ferai pas de cadeau. Tu seras comme les autres. Voilà ce que j'avais à te dire. Ne te fais pas de soucis, je serai là, bien entendu. As-tu des questions à me dire?
Non, je m'attendais à cela puisque vous m'avez fait passer mes études pour ça. Je pense que je n'ai pas la trempe d'un patron.
Tu prendras l'assurance.
Émile, démoralisé, samedi, va se confier à Gérard et Jérôme.
Gérard lui dit, ça ne changera pas grand-chose puisqu'on se reverra tous les samedis. Et puis, que peut-être que ça te plairait d'être patron.
Jérôme lui demande dans le train qui les amène à Vienne.
Et ton livre?
Mon livre?
Je ne sais pas. Je risque d'être pris.
Ils m'ont mis les menottes.
Il ne reste plus qu'à me marier.
Pour que la fête soit complète.
Le lundi matin, à 7h30, il est dans la voiture de son père qui le mène à l'usine. Son père lui dit dans la voiture,
« Tu te souviens, la première fois que je t'ai mené là-bas ?»«
Oui, je m'en souviens. »
Il lui montre l'usine. Et cette fois, il a présenté à ses collaborateurs. Chef d'atelier, contremaître, cadre, directeur, bureau. Puis, il le fait rentrer au laboratoire. Là, dans l'atelier, il le mène dans un bureau vitré où se trouvent des hommes dans un bureau en plus blanche qui surveille les ouvriers et les ouvrières. Ils entrent, le père s'arrête vers un homme en blouse blanche, les cheveux et la barbe blanche de taille moyenne, porte des lunettes en métal.
Monsieur Edmond.
Oui, monsieur.
Je vous présente mon fils, jeune homme. Ses études sont finies. Je le fais entrer chez nous. Il faut qu'il apprenne tout. Il a son diplôme d'ingénieur chimiste, mais j'aimerais qu'il commence par le bas, car je veux qu'il connaisse tout de notre entreprise. J'ai pensé à vous.
plus ancien et le plus sérieux.
Bonjour, François.
Je vous confie Jean-Fils.
Promenez-le,
prenez-le comme n'importe lequel des employés. Vous commencerez par le faire déballer des colis, les ranger en casier, pointer les arrivages. Puis, on le changera de poste au fur et à mesure de ses capacités. Bon, je vous laisse. Et le père s'éloigne. Monsieur Edmond regarde Émile. Il se dit... Il ne doit pas être bien costaud, celui-là. Et un peu niais. Je vais vous montrer votre vestiaire. Et il sort du bureau. Va au sous-sol pour lui montrer un vestiaire. Il dépose sa veste. Edmond lui dit : vous avez une blouse ? Non. Edmond sourit et dit : ça, c'est bien les patrons. Joue aux ouvriers avec costume et cravate. Émile se sent tout bête et dit : je ne savais pas. Alors, il ouvre un autre vestiaire pour prendre une blouse pour la donner à Émile. C'est une blouse grise toute sale. Tiens, prends celle-là. De toute façon, Jules n'est pas prêt de revenir. Il a décédé d'un cancer du poumon. C'est la maladie du métier. D'habitude, à 55 ans, on prend ce machin et hop. Ça fait des économies pour la sécurité sociale et la retraite. Émile met la blouse et ils vont remonter à l'atelier. Edmond le fait passer entre les rangées où se trouvent des femmes en blouse blanche, bonnet sur la tête et masque en tissu à la figure. Elles mettent dans des petites bouteilles un liquide jaunâtre avec un compte-goutte. Ça sent le pourri. En passant, toutes les femmes regardent de nouveau. Edmond caresse les fesses d'une femme et dit : ça va, Germaine ? La fille hausse les épaules. Edmond lui dit : t'as un sacré cul. Puis Edmond le mène au fond de l'atelier, qui est un hangar où se trouvent des rayonnages en métal pour stocker des arrivages de produits qui serviront à faire les mélanges. À côté des rayons, il y a des palettes avec des piles de carton et un diable. Edmond lui dit : voilà.
Bonjour, François.
Le magasin. Tu ouvres un carton avec le truc qui sert à enlever les agrafes. Ensuite, tu cherches le bon de commande dedans. Le regarde, contrôle s'il ne manque pas des produits, fais attention aux références, tu coches sur le bon de commande, puis tu ranges sur les rayonnages en faisant attention de ne pas mélanger les références. Voilà, tu as compris ? Oui ? Bon, je vais te montrer, tu vas voir. Fond de l'atelier, qui est un hangar où se trouvent des rayonnages en métal pour stocker des arrivages de produits qui serviront à faire les mélanges. À côté des rayons, il y a des palettes avec des piles de carton et un diable. Edmond lui dit : voilà.
Bonjour, François.
Le magasin. Tu ouvres un carton avec le truc qui sert à enlever les agrafes. Ensuite, tu cherches le bon de commande dedans. Le regarde, contrôle s'il ne manque pas des produits. Fais attention aux références. Tu coches sur le bon de commande. Puis tu ranges sur les rayonnages en faisant attention de ne pas mélanger les références. Voilà. Tu as compris ?
Oui.
Bon, je vais te montrer. Tu vas voir. Le premier jour est épuisant pour lui. Il est abruti par le bruit de l'atelier, le rendement qu'il se croit obligé de faire, et la concentration pour ne pas se tromper. Et oui, car plus un travail est idiot, plus il doit faire attention. Car on le surveille, il manœuvre au directeur, et à la première erreur, on lui sautera dessus. Car une personne qui va avoir des hautes responsabilités ne doit pas faire d'erreur pour des petits travaux. Sinon, on dira « Regarde-moi ça ». Si c'était moi qui avais fait l'erreur, j'aurais été mis à la porte. Et puis, comme c'est le fils du patron, malgré qu'il ne sait pas travailler, il deviendra patron. Et nous serons sous les ordres de quelqu'un qui ne sait même pas faire ce que l'on fait. Instinctivement, Émile sait cela. C'est dur d'être le fils du patron. Très dur. S'être lavé les mains dans un lavabo pas très propre, à midi il va manger à la cantine comme tout le monde. Le repas est correct, de toute façon il y a le comité d'entreprise qui veille. Il s'est mis au hasard à une table où il y a déjà trois hommes en bleu de travail. Le bruit des voix est abrutissant à cause que la cantine est un ancien atelier désaffecté. L'on voit les charpentes métalliques et les verrières en haut. Un gros homme crie, lui demande « Tu es nouveau, toi ?» Un grand mec lui dit « C'est le fils du patron. » « Tu te fous de ma gueule, le fils du patron ici. Tu parles, il doit être sur une plage à se dorer le cul. » Le mec lui dit « Demande-le-lui. » Vois-tu la tête ? Cela fait un quart d'heure que j'attends que tu termines de pointer et tu passes devant la voiture sans t'arrêter. Émile entre dans la voiture. Il voit que des milliers d'eux, Dieu le regarde. Pendant que la voiture roule, son père lui dit « Alors, ça s'est bien passé ?»«
Oui. » »«
Bon, j'ai appris que certains voulaient faire grève. Si tu entends quelque chose, fais-le moi savoir. »
Émile n'en répond pas.
Lorsqu'ils arrivent, ils sont obligés de répondre aux questions de la mère, qui voit déjà son fils directeur au moins. Après le repas, Émile est allé se coucher car il a mal au dos. Les jours passent ainsi.
monotone et triste. Il fait de plus en plus son travail mécaniquement. Les gens l'évitent et se méfient de lui. Lui se dit que c'est mieux ainsi.
Il a reçu sa paye, 8000 francs bruts. Son père dans la voiture lui dit
« Ta paye est à toi, fais-en ce que tu veux, mais n'oublie pas d'économiser pour ton mariage. »
« Je ne suis pas fiancé. »
« Oui, bien sûr, mais c'est presque fait. Fernande est une charmante jeune fille. Je suis très, très content. »
Deux mois plus tard, il voit arriver sur son lieu de travail son père Edmond.
Son père lui dit « Edmond m'a dit que tu te débrouillais bien dans ce travail. Tu vas te mettre au conditionnement maintenant. »
Et au fur et à mesure qu'il prend de l'avancement, les ordres sont de plus en plus froids avec lui et on le surveille encore plus. Ce sont surtout les cadres qui sont froids. Émile a de plus en plus de travail car en plus, son père tient à ce qu'il soit présent aux discussions de la direction qui se déroulent après les heures de travail, ce qui fait qu'il est ouvrier pendant les heures normales et cadre le soir. Cela lui fait des journées très longues, surtout qu'en plus son père lui dit de lire certains dossiers et rapports. Une fois par semaine, Fernande continue à venir le voir.
Heureuse qu'il travaille, elle lui dit « Tu pourras bientôt faire vivre une famille. » Émile rougit.
Il se sent obligé d'accepter de sortir avec Fernande, puisqu'il a peur des scènes qu'on lui fait s'il n'acceptait pas. Tous ses jours sont pris. Adieu le projet d'écrire. Comment peut-on écrire après une journée harassante? Mais il tient absolument à sortir seul tous les samedis soirs. Qu'il pleuve, neige, cela ne fait rien. Ça n'a aucune importance. Il veut sortir le samedi soir. Personne ne l'empêchera de sortir.
Un soir, Fernande lui demande de sortir avec elle le samedi.
« Non, je ne peux pas. »«
Ah bon ?» Sa mère, qui assiste à la conversation, lui dit.
« Il a des habitudes de vieux garçon. Monsieur a décidé que le samedi, c'était sa sortie. »«
Mais nous sortirons ensemble, c'est la même chose.
Émile lui dit furieux. Non, ce n'est pas la même chose. J'ai besoin de sortir seul, d'être seul. J'ai besoin de respirer. Une fois par semaine, j'ai besoin de liberté.
Mais je ne t'empêcherai pas d'être libre. Nous irons où vous voudrez.
Non.
La mère dit à Fernande. Laisse-le. Il lui reste encore quelques mauvais rêves de jeune homme qui n'a pas encore évacué. Laissons-le faire.
Fernande, surprise et ne comprenant pas,
bien,
la mère lui dit,
les jeunes gens ne sont pas comme nous, ils restent dans les nuages beaucoup plus longtemps.
Émile voit sa mère prendre Fernande et l'emmener s'asseoir près d'elle.
Il est penaud, honteux, intimidé, car il sait ce que veut dire sa mère. Il se sent nu devant elle.
Et, le samedi soir, ils coudent rejoindre Gérard. Ouf ! Un peu de pureté. Là, dans la cave, le noir. Il s'enivre de son odeur, chaleur, de sa peau. Il aime plaquer sa tête sur son ventre et le caresser. Gérard grandit et reste mince. Ses traits sont toujours aussi fins, peut-être même plus.
Lui raconte ses peines. Gérard lui dit
« Moi, c'est plus simple. J'ai un travail, je ne fais pas de soucis. Et à la maison, personne ne me pose de questions. Bien sûr, j'ai pas beaucoup d'argent, mais ça me suffit. Je n'aime pas sortir.
Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. J'ai ma paye qui me sert à rien.
Non, je te remercie. J'ai besoin de rien. Si, sauf partir. Pour les îles du Pacifique.
Émile soupire et dit,
moi en tout cas, je ne pourrai pas t'accompagner.
Ils ne voudront jamais, sauf un voyage de noces. Mais si tu veux, je peux te payer le voyage.
Non merci. Si tu n'y vas pas avec moi, moi j'y vais pas, je n'y vais pas non plus.
Et il embrasse sur la joue.
Il raccompagne aussi Jérôme après le restaurant jusqu'à Vienne.
Émile se met à rêver et à aimer le train. Dans le compartiment, tous deux, il dit à Jérôme,
j'aimerais que le train ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Il n'y a que dans un train où je me sens libre.
Jérôme lui dit,
tu es vraiment si malheureux que ça?
Oui. J'ai l'impression de vivre la vie d'un autre que je n'aimerais pas.
Alors que dois-tu faire?
Je ne sais pas. Un jour j'ai voulu mourir, mais je n'ai pas pu. Car j'avais l'impression de tuer en même temps que moi, Patrick.
À monter les échelons et son salaire augmente aussi. soir, qu'ils sont assis au salon, sa mère lui dit
« Maintenant que tu as un bon salaire, 25 000 francs, c'est pas mal pour un début, surtout que ton père t'a proposé de placer tes économies. Tu pourrais songer à te marier. »
Amy sursaute. Elle continue
« Tu as en âge de le faire. »
« Mais j'ai pas l'intention de me marier. »
Son père plie le journal nerveusement. Qu'il lisait, la mit sur la table et lui dit
« Et que comptes-tu faire ?»«
Rien pour le moment. »
« Écoute, il n'est pas bon pour un jeune homme de vivre seul. L'on prend de mauvaises habitudes. Tu es un homme maintenant. Je peux te parler de certaines choses. Tu comprendras. Assouvir ses désirs dans la clandestinité, ce n'est pas bon. Car la clandestinité aboutit toujours à quelque chose de trouble. Le mariage est fait pour que l'on puisse assouvir ses besoins en pleine lumière, en toute légalité. Il est normal qu'un adolescent se cherche et cherche ce qu'il a besoin où il peut. Mais un adulte qui s'est assumé a besoin pour tout ce qu'il fait de l'approbation de la société. Donc de vivre en plein jour. C'est pour cela que le mariage est indispensable.
Peut-être bien, père, mais pour certains, pour leur épanouissement, le mariage est une catastrophe.
Le père furieux se lève pour faire les 100 pas.
Peux-tu me dire comment?
En forçant les gens à être ce qu'ils ne sont pas.
Le père lui dit.
C'est-à-dire des êtres normaux. Je veux te dire, moi, des gens comme ça, dans ma famille, on les enferme.
Ils sont nuisibles.
Et comment?
En donnant le mauvais exemple de leur vie dépravée. Et puis, assez parlé.
Le père se retourne et fait face à Émile.
T'as toujours fait ce que tu voulais. Maintenant, tu vas faire au moins une fois ce que nous aimerions que tu fasses.
Émile furieux se lève.
Et dit, vous n'avez pas le droit de dire que je fais ce que j'ai voulu. Je vous ai donné ma vie professionnelle en acceptant de travailler avec vous.
Son père est furieux et fait de grands gestes des bras.
Monsieur, je voulais martyr alors qu'on lui offre une place en or. Et pour ses débuts, c'est pas mal, 25 000 francs par mois.
Émile soupire et lui crie.
Nous ne parlons pas le même langage. C'est impossible de nous comprendre.
Et sort de la pièce en faisant claquer la porte.
Longtemps derrière lui, son père dit.
Et voilà, après tout ce que l'on a fait pour lui, le remerciement que l'on a.
Émile a quitté l'immeuble en claquant la porte. Dehors, il fait nuit. Il marche à grandes enjambées dans les rues, au hasard. Il ne sait pas où aller, à qui parler. Gérard doit être dans sa famille, Jérôme déjà à Vienne. Il est trop tard pour aller chez lui. Il marche, marche. Les rues deviennent de plus en plus déserte, triste. Il se dit,
qu'il refuse ce que ses parents veulent lui imposer, qu'il veut vivre sa vie et non celle qu'on veut lui imposer. Tout à coup, surpris, il se retrouve sur le pont passerelle qui est au-dessus du périphérique à Vénissieux, pas bien loin du magasin Carrefour. Il s'arrête un moment, se souvient de sa tentative de suicide. Les larmes lui viennent aux yeux. Il sent Patrick fortement en lui et quelque chose lui dit porte la vie extérieure. En toi se trouve ton corps et l'objet de ton amour. Rien ne pourra vous séparer, même pas la mort. Cela le fait pleurer, mais lui chauffe le corps. Il regarde le ciel, un ciel étoilé, et se dit: tu n'es pas là-haut, mais en moi. Puis, il s'en retourne. Chez lui, ils sont tous au lit. Il se couche, courbaturé, mais apaisé. Personne ne saura ce que j'ai dans mon corps. Même si on le devine, on ne peut pas le sentir. Demain, tout se passe comme si rien n'était. Il a retrouvé son travail. Mais le soir, après le dîner, Fernande vient les voir. Émile sent qu'ils ont préparé quelque chose. Elle est reçue au salon. Tout le monde est assis autour de la table. Fernande semble gênée. La mère d'Émile lui demande: qu'avez-vous? C'est-à-dire que mes parents aimeraient voir Émile. Ils trouvent que nous sommes vus souvent ces derniers temps. Émile comprend et n'ose pas réagir. La mère dit à Fernande: oui, je comprends, c'est normal, cela fait plusieurs années que vous vous voyez presque chaque semaine et souhaite sûrement savoir ce que veut Émile. Émile, qu'en dis-tu?
tu aimes bien Fernande.
Oui.
Bon, eh bien, Amy, tu iras chez voir samedi la famille de Fernande en soirée. Voilà, la chose est faite. Embrassez-vous, mes enfants.
Émile est furieux, mais il se bâche pour embrasser la joue de Fernande.
Une fois que Fernande est parti, Émile quitte ses parents pour aller se coucher. Il entend derrière la porte du salon sa mère dire ça à son père.
« Eh bien voilà, c'était pas plus compliqué que cela. La douceur, mon cher, c'est mieux que la colère. »
Émile se dit, « Je suis un pantin, rien qu'un pantin pour eux. » Me voilà encore pris dans leurs griffes.
Il pleut jusqu'au samedi, des jours et des crades. En plus de cela, ils ont trouvé un samedi juste pour l'embêter.
Le samedi, après le dîner, poigné, cravaté par maman, qui lui dit avant de partir, « N'oublie pas les fleurs, deux bouquets et chiffres impairs. »
Elle l'embrasse.
« Bonne chance et ne crains rien, tout est prévu. »
Il se dit, « Je m'en doutais, c'est un complot. »
Une fois dehors, il a envie de fuir, de tout quitter, d'aller à la gare et attendre Jérôme, et d'aller vivre avec lui, caché. De toute façon, personne ne sait que nous nous connaissons. Il marche à grands pas, furieux, humilié, envie de pleurer, ne sait pas où il va, ni voir ce qui l'entoure. Tout d'un coup, ses pas s'arrêtent automatiquement. Il est surpris lui-même. Regarde où il est et voit que c'est l'immeuble où habite Fernande. Pendant une seconde, il est furieux. Il se dit qu'ils ont même programmé ce qu'il doit faire.
Je suis comme un robot.
Cela l'attriste énormément. Et son subconscient, d'une façon suicidaire, le fait entrer dans l'allée de l'immeuble. Il monte les escaliers, pas à pas, lourdement, comme le condamné qui monte les marches qui mènent à l'échafaud. La gorge serrée, il va sonner à la porte. Son glas retentit. Il se dit, tant pis, le sort en est joué. La porte s'est ouverte. C'est Fernande toute heureuse de le voir. C'est gentil d'être venu. Entrez. Il entre. Il a chaud. Elle ferme la porte. Et lui dit, je vais vous présenter à mes parents. Il la suit, elle le mène au salon. Où se trouve un homme, Monsieur Jean Vallée, le père, grand, mince, cheveux blancs, costume gris. Une femme plus petite, elle a
poussée avec des cheveux gris. Elle porte une robe bleu marine. Elle s'appelle Denise. Les parents se sont levés à leur arrivée. Fernande guide Émile devant eux.
Je vous présente Émile. Enchanté, dit le père et la mère. Tout à coup, sortant de sa torpeur et revenant aux pratiques, Émile dit « Zut! Excusez-moi, j'ai oublié les fleurs. » Ils se mettent tous à rire. Et la mère dit « Ce n'est pas grave. » C'est-à-dire que si ma mère le sait, ils se mettent tous à rire. Et la mère dit « On ne lui dira pas, c'est promis. » Je suis confus de venir comme ça. Ça ne fait rien. Asseyons-nous, dit la mère. Et ils vont s'asseoir sur des fauteuils en cuir noir autour d'une table basse. La pièce est vaste, claire. Les murs sont crépis de blanc. Une grande surface des murs est remplie d'étagères en bois clair, plein de livres. Il y a aussi une chaîne hi-fi. Le père demande « Vous voulez boire quelque chose ?»«
Non, merci, » Fernande dit à son père. « Si, il aime bien prendre un chocolat. »
La mère se lève. « Je vais lui préparer cela. Je ne savais pas qu'il était gourmand. »
Elle quitte la pièce.
Émile se sent confus. Il aimait être à milieu d'ici.
Le père dit, nous sommes heureux de pouvoir faire enfin votre connaissance. Notre fille nous a tellement parlé de vous, vous auriez pu venir plus tôt.
C'est-à-dire qu'il est trop timide, père.
La porte s'est ouverte. C'est la mère qui arrive avec un plateau et des boissons. Elle va les déposer sur la table.
Une fois qu'elle s'est assise, elle dit « Servez-vous. Ah, le chocolat, c'est pour Émile. »
Je l'ai fait en mettant une légère goutte de lait, puisque vous n'aviez pas donné d'indication.
Émile boit une gorgée et dit, il est parfait, merci.
Une fois qu'ils aient bu, ils ne savent pas quoi se dire. Alors Fernande dit, j'ai acheté le dernier CD de Pierre Boulez, il est génial.
Le père demande à Émile, vous aimez Pierre Boulez?
Non, pas tellement, je trouve irritante sa musique.
La mère lui dit,
mais non, ce n'est pas irritant, c'est moderne. Et puis, c'est le plus grand compositeur moderne et même de tous les temps. Il est sublime. D'ailleurs, tout le monde est d'accord pour cela. La preuve, quel que soit le gouvernement, on ne fait rien en politique musicale sans lui. L'opéra, on pense à lui. Une cité de la musique aussi, etc., etc. Vous ne le trouvez pas.
C'est-à-dire qu'il a un côté dictatorial. Rien ne doit se faire sans lui. Ce qui fait qu'on lui donne tout et que les autres n'ont plus rien. Sa musique est devenue une musique officielle que l'on ne doit pas critiquer, c'est sacré.
Il est un peu comme Jacques Lang.
La famille fait la grimace. Il est un peu loin de critiquer les deux célébrités de dictateurs culturels. On est de gauche et la gauche tient à avoir une politique culturelle forte pour cultiver les masses, les éduquer et non les distraire.
Le père dit pour détendre un peu l'atmosphère,
Vous aimez peut-être mieux la littérature. »
Fernand dit. « Sa mère m'a dit qu'il aimerait écrire. » La mère dit.
« Mais c'est bien ça. Moi, j'adore Nathalie Sarraute. Et vous ?»«
Non, pas tellement. J'aime mieux les romans qui racontent quelque chose. »
C'est dépassé, ça, mon petit.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les Conspirateurs. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.